Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Deuxième partie, chapitre 15, Le Sphinx des glaces. À deux jours de là, sur ce point du littoral antarctique, il ne restait plus un seul des survivants des deux goélettes. Ce fut le 21 février, à 6 heures du matin, que l'embarcation dans laquelle nous étions au nombre de 13 quitta la petite crique et doubla la pointe d'Holbein Land. Dès l'avant-veille, nous avions discuté la question du départ. Si elle devait être résolue affirmativement, il ne fallait pas différer d'un jour à prendre le large. Pendant un mois encore, un mois au plus, la navigation serait possible sur cette portion de mer comprise entre les 86e et 70e parallèles, c'est-à-dire jusqu'aux latitudes ordinairement barrées par la banquise. Puis au-delà, si nous parvenions à nous dégager, peut-être aurions-nous la chance de rencontrer quelques baleiniers, finissant la saison de pêche, ou qui sait, un bâtiment anglais, français ou américain, achevant une campagne de découverte sur les limites de l'océan austral. Passé la mi-mars, ces parages seraient délaissés des navigateurs, comme des pêcheurs, et tout espoir d'être recueilli devrait être abandonné. On s'était d'abord demandé s'il n'y aurait pas avantage à hiverner là où nous eussions été contraints de le faire avant l'arrivée de William Guy, à s'installer pour les 7 ou 8 mois d'hiver de cette région que les longues ténèbres et les froids excessifs ne tarderaient pas d'envahir. Au commencement de l'été prochain, alors que la mer serait redevenue libre, l'embarcation aurait fait route vers l'océan Pacifique, et nous aurions eu plus de temps pour franchir le millier de milles qui nous en séparait. N'eût-ce pas été acte de prudence et de sagesse? Cependant, si résignés que nous fussions, comment ne pas s'effrayer à la pensée d'un hivernage sur cette côte, bien que la caverne nous offrît un suffisant abri, bien que les conditions de la vie y fussent assurées, du moins en ce qui concernait la nourriture. Oui, résignés. On l'est tant que la résignation est commandée par les circonstances. Mais à présent que l'occasion se présentait de partir, comment ne pas faire un dernier effort en vue d'un prochain rapatriement? Comment ne pas tenter ce qu'avait tenté Hearne avec ses compagnons et dans des conditions infiniment plus favorables? Le pour et le contre de la question furent examinés de très près. Après avis demandé à chacun, on fit valoir qu'à la rigueur, si quelque obstacle arrêtait la navigation, l'embarcation pourrait toujours regagner cette partie de la côte dont nous connaissions l'exact gisement. Le capitaine de la Jane se montra très partisan d'un départ immédiat, dont Len Guy et Jem West ne redoutaient point les conséquences. Je me rangeais volontiers à leur avis que partagèrent nos compagnons. Seul Hurliguerly opposa quelque résistance. Il lui semblait imprudent de laisser le certain pour l'incertain. 3 ou 4 semaines seulement, pour cette distance, comprise entre Holbein Land et le cercle antarctique, serait-ce assez? Et comment, s'il le fallait, revenir contre le courant, qui portait au nord? Enfin, le bosseman fit valoir certains arguments qui méritaient d'être pesés. Toutefois, je dois le dire, il n'y eut qu'Endicott à se ranger de son bord, par l'habitude qu'il avait d'envisager les choses sous le même angle que lui. D'ailleurs, tout cela discuté et bien discuté, Hurliguerly se déclara prêt à partir, puisque nous étions tous de cet avis. Les préparatifs furent achevés à bref délai, et c'est pourquoi le 21, dès 7 heures du matin, grâce à la double action du courant et du vent, la pointe d'Holbein Land nous restait à 5 000 en arrière. Dans l'après-midi s'effacèrent graduellement les hauteurs qui dominaient cette partie du littoral, dont la plus élevée nous avait permis d'apercevoir la terre sur la rive ouest du Jane Sound. Notre canot était une de ces embarcations qui sont en usage dans l'archipel de Tsalal, pour la communication entre les îles. Nous savions, d'après le récit d'Arthur Pym, que ces canots ressemblaient les uns à des radeaux ou à des bateaux plats, les autres à des pirogues à balancier, la plupart très solides. À la dernière catégorie appartenait celui que nous montions, long d'une 40aine de pieds, large de 6, l'arrière et l'avant de même forme relevée, ce qui permettait d'éviter les virages, et il se manœuvrait avec plusieurs paires de pagaies. Ce que je dois faire particulièrement observer, c'est que dans la construction de ce canot, il n'entrait pas un seul morceau de fer, ni clou, ni cheville, ni semelle, pas plus à l'étrave qu'à l'étambot, ce métal étant absolument inconnu des Tsalalais. Des ligatures faites d'une sorte de liane, ayant la résistance d'un fil de cuivre, assuraient l'adhérence du bordé avec autant de solidité que le plus serré des rivetages. L'étoupe était remplacée par une mousse sur laquelle s'appliquait un brai de gomme, qui prenait une dureté métallique au contact de l'eau. Telle était cette embarcation, à laquelle nous donnâmes le nom de Paracuta, celui d'un poisson de ces parages, qui était assez grossièrement sculpté sur le plat-bord. Le Paracuta avait été chargé d'autant d'objets qu'il en pouvait contenir, sans trop gêner les passagers destinés à y prendre place. Vêtements, couvertures, chemises, vareuses, caleçons, pantalons de grosse laine et capotes cirées, quelques voiles, quelques espars, grappins, avirons, gaffes, puis des instruments pour faire le point, des armes et des munitions dont nous aurions peut-être l'occasion de nous servir, fusils, pistolets, carabines, poudre, plomb et balles. La cargaison se composait de plusieurs barils d'eau douce, de whisky et de gin, de caisses de farine, de viande au demi-sel, de légumes secs, d'une bonne réserve de café et de thé. On y avait joint un petit fourneau et plusieurs sacs de charbon pour alimenter ce petit fourneau pendant quelques semaines. Il est vrai, si nous ne parvenions pas à dépasser la banquise, s'il fallait hiverner au milieu des icefields, comme ces ressources ne tarderaient pas à s'épuiser, tous nos efforts devraient alors tendre à revenir vers Owen Land, où la cargaison de la goélette devait assurer notre existence pendant de longs mois encore. Eh bien, même si nous n'y réussirions pas, y aurait-il lieu de perdre tout espoir? Non, et il est dans la nature humaine de se rattacher à la moindre de ses lueurs. Je me souvenais de ce qu'Edgar Poe dit de l'ange du bizarre. Ce génie qui préside au contretemps dans la vie, et dont la fonction est d'amener ces accidents qui peuvent étonner, mais qui sont engendrés par la logique des faits. Pourquoi ne verrions-nous pas apparaître cet ange à l'heure suprême? Il va de soi que la plus grande part de la cargaison de l'Holbrain avait été laissée dans la caverne, à l'abri des intempéries de l'hiver, à la disposition des naufragés, si jamais il en venait sur cette côte. Un espar que le bosseman avait dressé sur le morne ne manquerait pas d'attirer leur attention. D'ailleurs, après nos deux goélettes, quel navire oserait s'élever à de telles latitudes? Voici quelles étaient les personnes embarquées sur le Paracuta. Le capitaine Len Guy, le lieutenant Jem West, le bossman Early Gerly, le maître Kalfa Hardy, les matelots Francis et Stern, le cuisinier Andy Cott, le métis Dirk Peters et moi, tous de l'Holbrain, puis le capitaine William Guy et les matelots Roberts, Cowan, Trinkle, de la Jane. Au total, 13, le chiffre fatidique. Avant de partir, Jem West et le bossman avaient eu soin d'implanter un mât à peu près au tiers de notre embarcation. Ce mât, maintenu par un étai et des haubans, pouvait porter une large misaine, qui fut découpée dans le hunier de la goélette. Le Paracuta mesurant 6 pieds de largeur au mètre beau, on avait pu donner un peu de croisure à cette voile de fortune. Sans doute ce gréement ne permettrait pas de naviguer au plus près, mais depuis le vent arrière jusqu'au grand large, cette voile nous imprimerait une vitesse suffisante pour enlever en 5 semaines, avec une moyenne de 30 000 par 24 heures, le millier de milles qui nous séparait de la banquise. Compter sur cette vitesse n'avait rien d'excessif, si le courant et la brise continuaient à pousser le Paracuta vers le nord-est. En outre, les pagaies nous serviraient lorsque le vent viendrait à refuser, et 4 paires, maniées par 8 hommes, assureraient encore une certaine vitesse à l'embarcation. Je n'ai rien de particulier à mentionner pendant la semaine qui suivit le départ. La brise ne cessa de souffler du sud. Aucun contre-courant défavorable ne se manifesta entre les rives du Jane Sound. Autant que possible, et tant que la côte d'Holbrain Land ne s'écarterait pas trop à l'ouest, les deux capitaines entendaient la longer à 1 ou 2 encablures. Elle nous eut offert refuge en cas qu'un accident eût mis notre canot hors d'usage. Il est vrai sur cette terre aride, au début de l'hiver, que serions-nous devenus? Mieux valait, je pense, n'y point songer. Durant ces premiers 8 jours, en pagayant dès que la brise venait à mollir, Le Barracuda n'avait rien perdu de la moyenne de vitesse indispensable pour atteindre l'océan Pacifique en ce court laps de temps. L'aspect de la Terre ne changeait pas. Toujours le même sol infertile, des blocs noirâtres, des grèves sablonneuses semées de rares raquettes, des hauteurs abruptes et dénudées en arrière-plan. Quant au détroit, il charriait déjà quelques glaces, des drifts flottants, des packs longs de 150 à 200 pieds, les uns de forme allongée, les autres circulaires, et aussi des icebergs que notre embarcation dépassait sans peine. Ce qu'il y avait de peu rassurant, c'est que ces masses se dirigeaient vers la banquise, et n'enfermeraient-elles point les passes, qui devaient encore être libres à cette époque. Inutile de noter que l'entente était parfaite entre les 13 passagers du Barracuda. Nous n'avions plus à craindre la rébellion d'un Hirn. Et à ce propos, on se demandait si le sort avait favorisé ces malheureux entraînés par le Sealing Master. À bord de leur canot surchargé, que le moindre coup de mer mettrait en péril, comment s'était accomplie cette navigation si dangereuse? Et qui sait cependant si Hirn ne réussirait pas, alors que nous échouerions, pour être partis 10 jours après lui. Je mentionnerai en passant que Dirk Peters, à mesure qu'il s'éloignait de ces lieux, où il n'avait retrouvé aucune trace de son pauvre Pim, était plus taciturne que jamais, ce que je n'aurais pas cru possible, et il ne me répondait plus lorsque je lui adressais la parole. Cette année 1840 étant bissextile, j'ai dû porter sur mes notes la date du 29 février. Or ce jour étant précisément l'anniversaire de la naissance d'Early Gerly, le bossman demanda que cet anniversaire fût célébré avec quelque éclat à bord du canot. « C'est bien le moins, » dit-il en riant, « puisqu'on ne peut me le fêter qu'une année sur 4. » Et l'on but à la santé de ce brave homme, un peu trop bavard, mais le plus confiant, le plus endurant de tous, et qui nous ragaillardissait par son inaltérable bonne humeur. Ce jour-là, l'observation donna 79°17' pour la latitude et 118°37' pour la longitude. On le voit, les deux rives du Jane Sound courait entre le 118e et le 119e méridien, et le Barracuda n'avait plus qu'une douzaine de degrés à franchir jusqu'au cercle polaire. Après avoir fait ce relèvement, très difficile à obtenir à cause du peu d'élévation du soleil au-dessus de l'horizon, les deux frères avaient déployé sur un banc la carte si incomplète alors des régions antarctiques. Je l'étudiais avec eux, et nous cherchions à déterminer approximativement quelle terre déjà reconnue gisait dans cette direction. Depuis que notre iceberg avait dépassé le pôle sud, il ne faut pas oublier que nous étions entrés dans la zone des longitudes orientales, comptée du 0 de Greenwich au 190e degré. Donc tout espoir devait être abandonné soit d'être rapatrié aux Falklands, soit de trouver des baleiniers sur les parages des Sandwich, des South Orkney ou de la Géorgie du Sud. En somme, voici ce qu'il était permis de déduire, eu égard à notre position actuelle. Il va de soi que le capitaine William Guy ne pouvait rien savoir des voyages antarctiques entrepris depuis le départ de la Jane. Il ne connaissait que ceux de Cook, de Krusenstern, de Weddell, de Bellingshausen, de Morell, et ne pouvait être au courant des campagnes ultérieures, la deuxième de Morell et celle de Camp, qui avait quelque peu étendu le domaine géographique en ces lointaines contrées. Par suite de ce que lui apprit son frère, il sut que, depuis nos propres découvertes, on devait tenir pour certain qu'un large bras de mer, le Jane Sound, partageait en deux vastes continents la région australe. Une remarque que fit ce jour-là le capitaine Lengi, c'est que si le détroit se prolongeait entre les 118e et 119e méridiens, le Barracuda passerait près de la position attribuée au pôle magnétique. C'est à ce point, on ne l'ignore pas, que se réunissent tous les méridiens magnétiques, point situé à peu près aux antipodes de celui des parages antarctiques, et sur lequel l'aiguille de la boussole prend une direction verticale. Je dois dire qu'à cette époque, le relèvement de ce pôle n'avait pas été fait avec la précision qu'on y a apportée plus tard. Cela n'avait pas d'importance, d'ailleurs, et cette constatation géographique ne pouvait avoir aucun intérêt pour nous. Ce qui devait nous préoccuper davantage, c'est que le Jane Sound se rétrécissait sensiblement, et se réduisait alors à 10 ou 12 milles de largeur. Grâce à cette configuration du détroit, on apercevait distinctement la terre des deux côtés. « Eh !» fit observer le bosseman. « Espérons qu'il restera assez de large pour notre embarcation. Si ce détroit-là allait finir en cul-de-sac... »«
Ce n'est pas à craindre, » répondit le capitaine Lengi,
« puisque le courant se propage dans cette direction. C'est qu'il trouve une issue vers le nord, et à mon avis, nous n'avons rien autre chose à faire qu'à le suivre. »
C'était l'évidence même. Le Paracuta ne pouvait avoir un meilleur guide que ce courant. Si par malheur nous l'eussions eu contre nous, il aurait été impossible de le remonter, sans être servi par une très forte brise. Peut-être, cependant, quelques degrés plus loin, ce courant s'infléchirait-il vers l'est ou vers l'ouest, étant donné la conformation des côtes. Néanmoins, au nord de la banquise, tout permettait d'affirmer que cette partie du Pacifique baignait les terres de l'Australie, de la Tasmanie ou de la Nouvelle-Zélande. Peu importait, on en conviendra, quand il s'agissait d'être rapatrié, que le rapatriement se fit ici ou là. Notre navigation se prolongea dans ces conditions une dizaine de jours. L'embarcation tenait bien l'allure du grand large. Les deux capitaines et James West n'en étaient plus à apprécier sa solidité. Quoique, je le répète, aucun morceau de fer n'eût été employé à sa construction. Il n'avait pas été une seule fois nécessaire de reprendre ses coutures, d'une parfaite étanchéité. Il est vrai, nous avions la mer belle, à peine ridée d'un léger clapotis à la surface de ses longues houles. Le 10 mars, avec même longitude, l'observation donna 76 degrés 13 minutes pour latitude. Puisque le Paracuta avait franchi environ 600 milles depuis son départ d'Olbwen Land et que ce parcours s'était opéré en 20 jours, il avait obtenu une vitesse de 30 milles par 24 heures. Que cette moyenne ne faiblit pas durant 3 semaines et toutes les chances seraient pour que les passes ne fussent point fermées ou que la banquise pût être contournée, et aussi que les navires n'eussent pas abandonné les lieux de pêche. Actuellement, le soleil se traînait presque au ras de l'horizon, et l'époque approchait où tout le domaine de l'Antarctique serait enveloppé des ténèbres de la nuit polaire. Fort heureusement, à s'élever vers le nord, nous gagnions des parages d'où la lumière n'était pas encore bannie. Nous fûmes alors témoins d'un phénomène aussi extraordinaire que ceux dont est rempli le récit d'Arthur Pym. Pendant 3 à 4 heures, de nos doigts, de nos cheveux, de nos poils de barbe, s'échappèrent de courtes étincelles, accompagnées d'un bruit strident. C'était une tempête de neige électrique, aux gros flocons peu serrés, dont le contact produisait des aigrettes lumineuses. Le Paracuta fut plusieurs fois à l'instant d'être englouti, tant la mer déferlait avec fureur. Mais on s'en tira sain et sauf. Cependant, l'espace ne s'éclairait déjà plus que d'une manière imparfaite. De fréquentes brumes réduisaient à quelques encablures seulement l'extrême portée de la vue. Aussi, la surveillance dut-elle être établie de manière à éviter toute collision avec les glaces flottantes, dont la vitesse de déplacement était inférieure à celle du Paracuta. Il y a également lieu de noter que du côté du sud, le ciel s'illuminait souvent de larges lueurs dues à l'irradiation des aurores polaires. La température s'abaissait d'une manière assez sensible et n'était plus que de 23 degrés, 5 degrés centigrades sous zéro. Cet abaissement ne laissait pas de causer de vives inquiétudes. S'il ne pouvait influencer les courants, dont la direction restait favorable, il tendait à modifier l'état atmosphérique. Par malheur, pour peu que le vent mollît avec l'accentuation du froid, la marche du canot serait diminuée de moitié. Or, un retard de 2 semaines suffirait à compromettre notre salut en nous obligeant à hiverner au pied de la banquise. Dans ce cas, ainsi que je l'ai dit, mieux vaudrait essayer de revenir au campement d'Olbwen Land. Serait-il libre alors, ce Jane Sound, que le Paracuta venait de remonter si heureusement? Plus favorisé que nous, Hearn et ses compagnons, qui nous devançaient d'une dizaine de jours, n'avaient-ils pas déjà franchi la barrière de glace? 48 heures après, le capitaine Lengi et son frère voulurent fixer notre position par une observation que le ciel, dégagé de brume, allait rendre possible. Il est vrai, c'est à peine si le soleil débordait l'horizon méridional, et l'opération présenterait de réelles difficultés. Cependant, on parvint à prendre hauteur avec une certaine approximation, et les calculs donnèrent les résultats suivants. Latitude, 75 degrés, 17 minutes sud. Longitude, 118 degrés, 3 minutes est. Donc, à cette date du 12 mars, le Parakuta n'était plus séparé que par la distance de 400 milles des parages du cercle antarctique. Une remarque qui fut faite alors, c'est que le détroit, très restreint, à la hauteur du 77e parallèle, s'élargissait à mesure qu'il se développait vers le nord. Même avec les longues vues, on n'apercevait plus rien des terres de l'Est. C'était là une circonstance fâcheuse, car le courant, moins resserré entre deux côtés, ne tarderait pas à diminuer de vitesse et finirait par ne plus se faire sentir. Durant la nuit du 12 au 13 mars, une brume assez épaisse se leva après une accalmie de la brise. Il y avait lieu de le regretter, car cela accroissait les dangers de collision avec les glaces flottantes. Il est vrai, l'apparition des brouillards ne pouvait nous étonner en de tels parages. Toutefois, ce qui eut lieu de nous surprendre, c'est que loin de décroître, la vitesse de notre canot s'augmenta graduellement, bien que la brise eût calmi. À coup sûr, cette accélération n'était pas due au courant, puisque le clapotis des eaux à l'étrave prouvait que nous marchions plus vite que lui. Cet état de choses dura jusqu'au matin, sans que nous puissions nous rendre compte de ce qui se passait, lorsque vers 10 heures, la brume commença à se dissoudre dans les basses zones. Le littoral de l'ouest reparut, un littoral de roches, sans arrière-plan de montagne, que longeait le Parakuta. Et alors se dessina, à un quart de mille, une masse qui dominait la plaine d'une cinquantaine de toises, sur une circonférence de 200 à 300. Dans sa forme étrange, ce massif ressemblait volontiers à un énorme sphinx, le torse redressé, les pattes étendues, accroupi dans l'attitude du monstre ailé que la mythologie grecque a placé sur la route de Thèbes. Était-ce un animal vivant, un monstre gigantesque, un mastodonte de dimensions 1000 fois supérieures à ces énormes éléphants des régions polaires dont les débris se retrouvent encore? Dans la disposition d'esprit où nous étions, on l'aurait pu croire. Croire aussi que le mastodonte allait se précipiter sur notre embarcation et la broyer sous ses griffes. Après un premier moment d'inquiétude peu raisonné et peu raisonnable, nous reconnûmes qu'il n'y avait là qu'un massif de conformation singulière, dont la tête venait de se dégager des brumes. Ah, ce sphinx! Un souvenir me revint, c'est que la nuit pendant laquelle s'effectua la culbute de l'iceberg et l'enlèvement de l'Holbrane, j'avais rêvé d'un animal fabuleux de cette espèce, assis au bord du monde, et dont seul un Edgar Poe, avec sa génialité intuitive, eût pu arracher les secrets. Mais de plus étranges phénomènes allaient attirer notre attention, provoquer notre surprise, notre épouvante même. J'ai dit que depuis quelques heures, la vitesse du Parakuta s'accroissait graduellement. Maintenant, elle était excessive, celle du courant lui restant inférieure. Or voici que tout à coup, le grappin de fer, qui provenait de l'Holbrane et placé à l'avant dans notre canot, s'échappe hors de l'étrave, comme s'il eût été attiré par une puissance irrésistible. Et la corde qui le retient est tendue à se rompre. Il semble que ce soit ce grappin qui nous remorque, en rasant la surface des eaux, vers le rivage. « Qu'y a-t-il donc ? » s'écria William Guy. « Coupe, Bosman, coupe !» ordonna Jem West. « Ou nous allons nous briser contre les roches. » Hurliguerly s'élance vers l'avant du Parakuta, pour couper la corde. Soudain, le couteau qu'il tenait à la main lui est arraché. La corde casse. Et le grappin, comme un projectile, file dans la direction du massif. En même temps, ne voilà-t-il pas que tous les objets de fer déposés dans l'embarcation, les ustensiles de cuisine, les armes, le fourneau d'Endicott, nos couteaux arrachés de nos poches, prennent le même chemin, pendant que le canot, courant sur son erre, va buter contre la grève. Qu'y avait-il donc ? Et pour expliquer ces inexplicables choses, fallait-il admettre que nous étions dans la région des étrangetés que j'attribuais aux hallucinations d'Arthur Pym? Non, c'était des faits physiques dont nous venions d'être témoins, non des phénomènes imaginaires. D'ailleurs, le temps de la réflexion nous manqua, et dès que nous eûmes pris terre, notre attention fut détournée par la vue d'une embarcation échouée sur le sable. « Le canot de l'Holbrain !» s'écria Hurliguerly. C'était bien le canot, volé par Irne. Il gisait à cette place, les bordages disjoints, la membrure larguée de la quille, en complète dislocation. Plus rien que des débris informes, en un mot, ce qui reste d'une embarcation à la suite d'un coup de mer qui l'a écrasé contre les roches. Ce qui fut aussitôt remarqué, c'est que les ferrures de ce canot avaient disparu. Oui, toutes. Les clous du bordé, la semelle de la quille, les garnitures de l'étrave et de l'étambot, les gonds du gouvernail. Que signifiait tout cela? Un appel de Jem West nous ramena vers une petite grève à droite de l'embarcation. Trois cadavres étaient couchés sur le sol. Celui de Irne, celui du maître voilier Martin Holt, celui de l'un des Falklandais. Des 13 qui accompagnaient le Sealing Master, il ne restait que ces trois-là, dont la mort devait remonter à quelques jours. Qu'étaient devenus les 10 manquants? Avaient-ils été entraînés au large? Des perquisitions furent faites le long du littoral, au fond des criques, entre les écueils. On ne trouva rien, ni les traces d'un campement, ni même les vestiges d'un débarquement. Il faut, dit William Guy, que leur canot ait été abordé en mer par un iceberg en dérive. La plupart des compagnons de Irne se seront noyés, et ces trois corps sont venus à la côte, déjà privés de vie. Mais, demanda le bosseman, comment expliquer que l'embarcation soit dans un tel état? Et surtout, ajouta Jem West, que toutes ces ferrures lui manquent. En effet, repris-je, il semble qu'elles ont été violemment arrachées. Laissant le barracuda à la garde de deux hommes, nous remontâmes vers l'intérieur, afin d'étendre nos recherches sur un plus large rayon. Nous approchions du massif, maintenant sorti des brumes, et dont la forme s'accusait avec plus de netteté. C'était, je l'ai dit, à peu près celle d'un sphinx. Un sphinx de couleur fuligineuse, comme si la matière qui le composait eût été oxydée par les longues intempéries du climat polaire. Et alors une hypothèse surgit dans mon esprit, une hypothèse qui expliquait ces étonnants phénomènes. « Ah ! » m'écriai-je, « un aimant. Il y a là, là, un aimant, doué d'une force d'attraction prodigieuse. » Je fus compris. Et en un instant, la dernière catastrophe dont Irne et ses complices avaient dû être victimes s'illumina d'une terrible clarté. Ce massif n'était qu'un aimant colossal. C'est sous son influence que les ligatures de fer du canot de l'Holbrain avaient été arrachées et projetées, comme si elles eussent été lancées par le ressort d'une catapulte. C'est ce qui venait d'attirer avec une force irrésistible tous les objets de fer du Paracuta. Et notre embarcation aurait eu le sort de l'autre si sa construction eût employé un seul morceau de ce métal. Était-ce donc la proximité du pôle magnétique qui produisait de tels effets? L'idée nous en vint tout d'abord, puis réflexion faite, cette explication dut être rejetée. Du reste, à l'endroit où se croisent les méridiens magnétiques, il n'en résulte d'autres phénomènes que la position verticale prise par l'aiguille aimantée en deux points similaires du globe terrestre. Ce phénomène, déjà expérimenté aux régions arctiques par des observations faites sur place, devait être identique dans les régions de l'Antarctique. Ainsi donc, il existait un aimant, d'une intensité prodigieuse, dans la zone d'attraction duquel nous étions entrés. Sous nos yeux s'était produit un de ces surprenants effets, qui avait été jusqu'alors relégué au rang de fable. Qui donc a jamais voulu admettre que des navires puissent être irrésistiblement attirés par une force magnétique, leurs ligatures de fer larguant de toutes parts, leurs coques s'entr'ouvrant, la mer les engloutissant dans ses profondeurs. Et cela était pourtant. En somme, voici quelle explication de ce phénomène me paraît pouvoir être donnée. Les vents alizés amènent d'une façon constante vers les extrémités de l'axe terrestre des nuages ou des brumes dans lesquels sont emmagasinées d'immenses quantités d'électricité, que les orages n'ont pas complètement épuisé. De là une formidable accumulation de ce fluide au pôle, et qui s'écoule vers la Terre d'une manière permanente. Telle est la cause des aurores boréales et australes, dont les lumineuses magnificences s'irradient au-dessus de l'horizon, surtout pendant la longue nuit polaire, et qui sont visibles jusqu'aux zones tempérées, lorsqu'elles atteignent leur maximum de culmination. Il est même admis, fait non constaté, je le sais, qu'au moment où une violente décharge d'électricité positive s'opère dans les régions arctiques, les régions antarctiques sont soumises aux décharges d'électricité de non contraire. Eh bien, ces courants continus au pôle, qui affolent les boussoles, doivent posséder une extraordinaire influence, et il suffirait qu'une masse de fer fût soumise à leur action pour qu'elle se changeât en un aimant d'une puissance proportionnelle à l'intensité du courant, au nombre des tours de l'hélice électrique et à la racine carrée du diamètre du massif de fer aimanté. Précisément, on pouvait chiffrer par des milliers de mètres cubes le volume de ce sphinx, qui se dressait sur ce point des terres australes. Or, pour que le courant circulât autour de lui, et en fît un aimant par induction, que fallait-il? Rien qu'un filon métallique, dont les innombrables spires, sinuant à travers les entailles de ce sol, fussent souterrainement reliées à la base du dit massif. Je pense aussi que ce massif devait être placé dans l'axe magnétique, comme une sorte de calamite gigantesque d'où se dégageait le fluide impondérable et dont les courants faisaient un inépuisable accumulateur dressé aux confins du monde. Quant à déterminer s'il se trouvait précisément au pôle magnétique des régions australes, notre boussole ne l'aurait pu, car elle n'était pas construite à cet effet. Tout ce que j'ai à dire, c'est que son aiguille, affolée et instable, ne marquait plus aucune orientation. Peu importait d'ailleurs, pour ce qui concernait la constitution de cet aimant artificiel et la manière dont les nuages et le filon entraînaient sa force attractive. C'est de cette façon très plausible que je fus conduit à expliquer ce phénomène, par instinct. Il n'était pas douteux que nous fussions à proximité d'un aimant, dont la puissance produisait des effets aussi terribles que naturels. Je communiquai mon idée à mes compagnons, et il leur parut que cette explication s'imposait en présence des faits physiques dont nous venions d'être témoins. « Il n'y a aucun danger pour nous à gagner le pied du massif, je pense, » demanda le capitaine Lengi. « Aucun, » répliquai-je. « Là ! Oui, là !» Je ne saurais peindre l'impression que nous causèrent ces trois mots, qui furent jetés comme trois cris, venus des profondeurs de l'ultramonde, eût dit Edgar Poe. C'était Dirk Peters qui avait parlé, et le corps du métis était tendu dans la direction du sphinx, comme si, devenu de fer, il eût été lui aussi attiré par l'aimant. Puis le voilà qui court dans cette direction, et ses compagnons le suivirent à la surface d'un sol où s'entassaient des pierres noirâtres, des éboulis de moraines, des débris volcaniques de toutes sortes. Le monstre grandissait à mesure que nous en approchions, sans rien perdre de ses formes mythologiques. Je ne saurais peindre l'effet qu'il produisait, isolé à la surface de cette immense plaine. Il y a de ces impressions que ni la plume ni la parole ne peuvent rendre. Et ce ne devait être qu'une illusion de nos sens. Il semblait que nous fussions attirés vers lui par la force de son attraction magnétique. Lorsque nous eûmes atteint sa base, nous retrouvâmes les divers objets de fer sur lesquels s'était exercée sa puissance. Armes, ustensiles, grappins du paracouta adhéraient à ses flancs. Là également se voyaient ceux qui provenaient du canot de l'Holbrain, et aussi les clous, les chevilles, les tolets, les semelles de la quille, les ferrures du gouvernail. Il n'y avait donc plus de doute possible sur la cause de destruction du canot qui portait Hearn et ses compagnons. Brutalement déclinqué, il était venu se briser contre les roches. Et tel eût été le sort du paracouta, si, par sa construction même, il n'eût échappé à cette irrésistible attraction magnétique. Quant à rentrer en possession des objets qui adhéraient aux flancs du massif, fusils, pistolets, ustensiles, telle était leur adhérence qu'il fallut y renoncer. Et Hurliguerly, furieux de ne pouvoir rattraper son couteau, collé à la hauteur d'une cinquantaine de pieds, de crier en montrant le poing à l'impassible monstre. « Voleur de sphinx !» On ne sera point étonné qu'il n'y eût pas à cette place d'autres objets que ceux qui provenaient soit du paracouta, soit du canot de l'Holbrain. Assurément, jamais navire ne s'était élevé à cette latitude de la mer Antarctique. Hearn et ses complices d'abord, le capitaine Lengi et ses compagnons ensuite, nous étions les premiers qui eussions foulé ce point du continent austral. Pour conclure, tout bâtiment qui se fût approché de ce colossal aimant eût couru à sa complète destruction, et notre goélette aurait eu le même sort que son canot, dont il ne restait plus que d'informes débris. Cependant, James West nous rappela qu'il était imprudent de prolonger notre relâche sur cette terre du Sphinx, nom qu'elle devait conserver. Le temps pressait, et un retard de quelques jours nous eût imposé d'hiverner au pied de la banquise. L'ordre de regagner le rivage venait donc d'être donné, lorsque la voix du métis retentit encore. Et ces trois mots, ou plutôt ces trois cris, furent de nouveau jetés par Dirk Peters. « Là ! Là ! Là !» Après avoir contourné le revers de la patte droite du monstre, nous aperçûmes Dirk Peters, agenouillé, les mains tendues devant un corps, ou plutôt un squelette, revêtu de peau, que le froid de ces régions avait conservé intact, et qui gardait une rigidité cadavérique. Il avait la tête inclinée, une barbe blanche qui lui tombait jusqu'à la ceinture, des mains et des pieds armés d'ongles longs comme des griffes. Comment ce corps était-il appliqué contre le flanc du massif, à deux toises au-dessus du sol? En travers du torse, maintenu par sa bretelle de cuir, nous vîmes le canon d'un fusil tordu, à demi rongé par la rouille. Pim. Mon pauvre Pim, répétait Dirk Peters d'une voix déchirante. Alors il essaya de se relever pour s'approcher, pour baiser les restes ossifiés de son pauvre Pim. Ses genoux fléchirent. Un sanglot lui serra la gorge. Un spasme lui fit éclater le cœur. Et il tomba à la renverse, mort. Ainsi donc, depuis leur séparation, le canot avait entraîné Arthur Pym à travers ces régions de l'Antarctique. Comme nous, après avoir dépassé le pôle austral, il était tombé dans la zone d'attraction du monstre. Et là, tandis que son embarcation s'en allait avec le courant du nord, saisie par le fluide magnétique avant d'avoir pu se débarrasser de l'arme qu'il portait en bandoulière, il avait été projeté contre le massif. À présent, le fidèle métis repose sur la terre du Sphinx, à côté d'Arthur Gordon Pym, ce héros dont les étranges aventures avaient trouvé dans le grand poète américain un non moins étrange narrateur.